Oui, l'éventuel ministère de la cohésion des territoires, mais avant DDA et DDE, en Vaucluse et en Seine-Maritime. Bon, tout à fait d'accord, enfin, très bon livre, complètement d'accord avec votre exposé. Peut-être quelques réactions et quelques questions qui tournent globalement autour de qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, en termes de perspective, de la globalisation en matière d'échange agroalimentaire. Alors, plusieurs choses pour l'illustrer. Vous avez dit au début, il faut, pour qu'on exporte, il faut concentrer. Il faut concentrer, il faut avoir des grandes structures. Je pense qu'on a en France un problème, qui n'est pas insoluble, mais après, il faut qu'on travaille, entre cette nécessité d'avoir des structures fortes, et puis, alors vous avez dit la multiplication des cahiers des charges. Derrière ces cahiers des charges, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelait les AOC, maintenant les AOP, c'est-à-dire nos productions de terroir auxquelles on tient beaucoup. Mais c'est vrai qu'elles posent problème à l'exportation. Quand vous êtes devant un Chinois, qui sait à peu près où est la France, qui commence à avoir un petit peu plus de mal à situer Marseille par rapport à Paris, et que vous commencez à lui expliquer que les Ventoux du Nord n'ont rien à voir avec les Ventoux du Sud, c'est un peu compliqué. Et pourtant, on aime bien le Ventoux du Nord et le Ventoux du Sud, mais comment arriver à avoir peut-être des interprofessions ou des filières mieux organisées qui, au-dessus de ces particularités, arrivent à mettre une bonne étiquette, alors une étiquette de bassin un minimum, voire une étiquette France, pour mieux vendre. Donc il y a cette compatibilité entre nos terroirs et la taille. Et puis deux remarques de deux présidents de chambres d'agriculture que j'ai été amené à côtoyer. Celui du Vaucluse qui disait régulièrement « Je suis français pour mes coûts de production, je suis européen pour mes charges et donc mes contraintes environnementales, sous-entendu toutes les contraintes environnementales viennent de l'Europe, et puis la France les applique plus blanc que blanc, etc. Puis je suis mondial pour mes prix, et que le grand écart, quelquefois, il est compliqué. » Repris par un autre président de chambre d'agriculture différemment, que connaît bien Bertrand Hervieux, celui de Seine-Maritime, un jour je lui disais, je me prenais moi en tant que directeur, quelquefois, ma grande honte, à regarder les perspectives climatiques, mais au sens un peu global dans le monde, et en particulier au moment de la crise des céréales, et à ma grande honte, pour dire finalement, il va y avoir une très grosse sécheresse en Australie, El Rio va entraîner des inondations, etc. Donc les prix vont être bons en France, donc je n'aurai pas de problème avec mes agriculteurs. Et ce président de chambre me disait, mais le problème c'est que nous aussi je fais pareil. Donc est-ce qu'on n'est pas au bout d'un système qui est obligé de parier sur la misère des uns pour arriver à tirer son épingle du jeu? Système qui, et vous l'avez très bien dit, il est dicté par ce système des importations et des exportations, par un prix mondial qui fixe tous les prix, alors que, j'ai plus les chiffres en tête, mais autant que je me souvienne, la part de l'exportation de produits agroalimentaires dans la totalité des produits agroalimentaires est assez minime. Combien c'est 10%, c'est 15%, je ne sais plus, mais c'est très faible. Or, c'est ça qui fixe le prix mondial. Et ça peut poser problème. Pour terminer sur un des éléments de votre conclusion, certes, le comté, c'est microscopique, ça n'exporte pas. Il se trouve que j'étais la semaine dernière en Franche-Comté, j'ai eu un agriculteur du Haut-Doubs qui fait le comté, qui fait du morbier, qui fait de la boîte, autant de machins microscopiques, comme on dit, mais qui me disait, mais la crise du lait, c'est quoi? Moi, je ne l'ai jamais connue et je ne la connaîtrai jamais. Enfin, je ne la connaîtrai jamais. En tout cas, je ne l'ai jamais connue. Et qui connaît la crise du lait? Ceux qui produisent ce qu'on appelle du lait flash. Alors, les flash, c'est ce lait qu'on ne valorise pas, qu'on vend comme ça, et puis qu'on va dessécher pour faire de la poudre de lait, etc., et qui se retrouve soumis au prix mondial. Et là, le producteur, il boit le bouillon. Celui qui a fait du comté, il s'en sort bien.
On va prendre plusieurs questions ou commentaires, parce que je connais Vincent Châtelier. La réponse à la question, là, va déjà nous entraîner un certain temps. Donc, si vous laissez le temps de vous exprimer. Madame, allez-y, madame. Oui, c'est...
Bonjour. Un petit témoignage parce que j'ai travaillé pendant un an dans le domaine de l'export de produits agroalimentaires vers le Japon. Donc, j'ai d'ailleurs travaillé aussi dans ce cadre-là. Et alors, ma question, du coup, là, elle porte sur vos statistiques. Est-ce que l'INRA regarde? Parce que nous, on était sur l'exportation de produits de boulangerie industrielle, mais de qualité, avec une large panoplie de produits. Mais est-ce que vous suivez ça, l'exportation de produits transformés? Parce que pour le coup, il y a une valeur ajoutée, des emplois en France, etc., et une bonne image aussi. Pas trop longue, mais j'ai quand même le souvenir qu'on était une petite boîte et qu'on n'arrivait pas vraiment à trouver de soutien. Et notamment sur le design des produits, moi pendant un an, mon boulot c'était d'essayer de faire communiquer deux mondes qui ne se connaissaient absolument pas. Parce que les Japonais aimaient bien les produits de boulangerie française, mais le goût, la texture, les couleurs, tout ça, ça ne correspondait pas. Et il y avait un super truc à faire, mais il fallait que les... Voilà. Et donc, voilà, c'est un petit témoignage pour vous dire quand même que le chef d'entreprise avec qui je bossais, il était un peu seul. Enfin, il avait son réseau au niveau industriel, mais au niveau pouvoir public, c'était pas super. Bon voilà, c'était un petit témoignage. Et par rapport à votre exposé, hein, qui était passionnant, et par rapport à l'intervention de Stéphane Le Foll, ma question, qui rejoint aussi une remarque, comment on peut changer de modèle? Parce qu'à un moment, vous avez présenté la réalité, qu'il y a un monde où l'agriculture est totalement libéralisée, où une sécheresse en Australie va complètement bouleverser les revenus de l'agriculture. Enfin, est-ce qu'on peut tenir comme ça? Est-ce qu'on peut changer de modèle et avoir des agriculteurs qui seraient peut-être moins endettés, moins sous l'angoisse financière de la banque, et qui ne serait pas dans la fuite en avant de produire plus. Enfin, c'est des questions que je me pose à titre personnel. Est-ce qu'on peut essayer de changer ça? Et de la même façon, vous dites, on a une très bonne image, donc on arrive à vendre à l'étranger, donc ce qu'on fait, c'est mieux que ce que fait le Brésil, donc c'est bon, on a un marché qui est acquis sur cette image. Et moi, je me dis, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas fragile? Combien de temps ça peut durer? Quand on voit qu'il suffit que deux escrocs aux Pays-Bas vendent un produit qui est interdit pour enlever les poules dans les exploitations, et que toute l'Europe, tout est tellement libéralisé qu'il y a deux mecs qui font n'importe quoi, et en un an, toutes les exploitations d'œufs sont touchées. Les vidéos de la 214, elles choquent tout le monde, donc il y a bien un décalage entre la norme et la réalité. Et moi, je me dis, tout est libéralisé, les idées, les images circulent. Certes, ça reste mieux que le Brésil, et je veux bien l'entendre, mais est-ce qu'à un moment, si justement on ne renforce pas ces normes, est-ce qu'on n'est pas un petit peu fragile par rapport à certains décalages qui existent entre la théorie et la pratique? Ce sont des réflexions personnelles, j'ai pas de... Je lance un peu le débat.
Monsieur.
Oui, il y a des sous communautaire de Dunkerque. Merci beaucoup parce que je pense que vous avez fait un panorama très large et très, très clair. Et puis vous confirmez que vu de Dunkerque, où on voit arriver des films d'importation, on a de grands voisins flamands, qu'ils soient belges ou néerlandais, et je peux témoigner que ce que vous dites est tout à fait pertinent, notamment sur la banalisation, l'importation de produits alimentaires transformés aux Pays-Bas. Quand on connaît un peu le sujet dans la proximité, je peux confirmer que je ne conseille pas la consommation de ces produits-là, mais ils sont consommés de manière massive. Témoignez aussi que sur l'aspect des transmissions des terres agricoles, vous pourriez peut-être nous parler du marché mondial des terres agricoles, cette agriculture puissante des Pays-Bas et une partie de la Belgique achète de plus en plus ou prend en exploitation des terres agricoles qui ne sont pas reprises en termes d'exploitation sur les Hauts-de-France, par exemple, et qui les exploitent de manière différente. Dernière chose sur laquelle je voulais insister sur, à titre de témoignage, c'est sur la notion de la réglementation qui vient d'être évoquée par notre collègue, qui est appliquée de manière assez différenciée à l'importation. Les services vétérinaires, les contrôles dans les ports français ne sont pas pratiqués de la même manière que dans les ports néerlandais ou belges. Donc il y a aussi un lien à cette question-là. Moi, je voulais simplement vous interroger sur ce que vous avez évoqué. Est-ce que dans l'idée d'un contrat de la France avec ses agriculteurs et son agriculture, est-ce que, et au-delà des nuances de la part des labels, des productions qualitatives ou normées par rapport à la production de masse, néanmoins, est-ce que ce n'est pas là l'avenir de la France qui a inventé les AOC dans les années 20, avec le lien au terroir, au savoir-faire, aux produits, aux producteurs, justement d'insister à long terme là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on va gagner des parts de marché durables à l'export, et aussi peut-être mettre en évidence un élément d'attractivité de la France avec une agriculture exigeante, qualitative. Est-ce que ce serait pas, c'est pas une trajectoire d'avenir à dessiner collectivement?
Alors, deux autres questions, oui. Oui, madame et monsieur, alors.
Deux questions, l'une également sur le modèle économique. Je comprends que les aides publiques restent indispensables, et en même temps je m'interroge sur leur éventuel caractère pervers, puisque la tentation peut être grande aussi d'adapter sa production pour maximiser les aides. Je me pose la question, est-ce que l'agriculteur a une chance de devenir un entrepreneur comme un autre, ou est-ce qu'il restera à part justement avec ce système d'aide? La deuxième question concerne l'eau. On constate des initiatives qui consistent à installer des exploitations bio autour de points de captage. Est-ce que vous voyez cela comme une initiative intéressante mais qui restera marginale? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être développé? Et est-ce que justement ça pourrait être un point d'appui pour rapprocher l'agriculture de la société autour d'enjeux communs et notamment d'enjeux environnementaux?
Dernière question.
Oui, donc Cyril Leroy de la DVT de la Lozère, donc département d'élevage, si l'on est, spécialiste effectivement de la fuite de la valeur ajoutée, puisqu'on est assez massivement sur le broutard qui part en Italie afin de faire l'argent. Donc moi j'avais juste une question relative au bio, puisque compte tenu des difficultés notamment sur la filière laitière, on a assisté à un certain nombre de conversions assez rapide là sur ces deux dernières années. Et la question qu'on a localement, c'est est-ce que ça n'est pas un péril la filière bio elle-même? Alors on voit qu'il faut quand même la développer, puisque c'est plutôt des conversions, des conversions un peu pour jouer la sécurité ou le bio apparaît comme une valeur refuge, sachant que ça nécessite une technicité très différente, qui n'est pas forcément acquise, et là je reviens à une observation que j'avais. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'agriculture, mais du coup on parle peu d'agriculteurs, parce que finalement elle est faite, toute cette production est faite aussi par nos agriculteurs. Et est-ce qu'ils sont bien formés, est-ce qu'ils sont tous suffisamment avertis et sensibilisés à ces différents enjeux, est-ce qu'ils se structurent entre eux de la manière la plus opportune justement pour maîtriser la filière aval, dont on sait que c'est dans tout ce qui est en production l'enjeu principal? Voilà. Donc oui à l'agriculture, mais pas sans les agriculteurs. Merci.
Bien. Donc tu vois. Voilà, écoutez, il est. Il est 11h moins 10 en gros, et on se donne 10 minutes pour faire une pause à 11h et reprendre ensuite. Et puis on reprendra un débat général à la suite de... Oui, tu pourras reparler. Après les points de... il faut faire une pause café à 11h.
Bon, 10 minutes, je n'irai pas du tout sur le terrain d'Aurélie, c'est-à-dire les politiques publiques. Comme ça, tu aborderas. Il y a suffisamment de remarques qui ont été faites. Bon, en vous écoutant, je me suis dit que c'était la troisième fois que je venais dans ce séminaire, qu'à chaque fois les questions étaient très open, très ouvertes, très intéressantes. La frustration qu'on a, c'est de les traiter rapidement, donc je vais essayer d'apporter quelques éléments. Alors, le premier point, donc éclairé, puisque vous avez fait le métier d'administration agricole, c'est compliqué dans des départements très différents en plus, de la globalisation. Alors, et qui rejoint un peu des remarques ou des questionnements sur les positionnements de notre agriculture dans la globalisation. Je dirais d'abord que ce dilemme que les agriculteurs évoquent en disant on a les prix mondiaux, on a les coûts européens et on a les normes françaises, il a au moins 30 ans. Donc ça fait 30 ans qu'on vit dans ce monde-là. La question c'est est-ce que ça risque de changer ? Alors je pense absolument pas. Je pense pas qu'on puisse faire abstraction de la globalisation. Aujourd'hui on a une trop grande dépendance, la France a une trop grande dépendance à l'externe dans un certain nombre de filières. Le secteur viticole, vous enlevez l'export, qu'est-ce qu'il devient ? Le secteur des céréales, 1 kg sur 2 part à l'international, et le secteur du lait, 40%. Pour ces trois secteurs, en tout cas, la question de l'ancrage de la France dans la mondialisation, c'est pas une option, c'est une obligation. Alors on aimerait, j'entends, hein, on aimerait que la globalisation nous soit plus heureuse. On aimerait que la globalisation nous renvoie à ce que nous faisons bien chez nous, à nos valeurs justement, à nos structures, à nos rapports à l'environnement, etc. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que, et ça rejoint des remarques de tout à l'heure, parce qu'en fait c'est pas des biens agricoles primaires qu'on exporte, et ça intègre votre remarque, on travaille sur des biens transformés. Et les biens transformés issus d'une agriculture. Il y a des domaines où il y a peu de transformation. Le domaine des céréales, à part effectivement certains secteurs, on exporte du grain. Donc du grain à La Rochelle, Dunkerque, enfin on exporte du grain, et qui finalement a peu de transformation. Mais pour tout un ensemble de produits, les biens qu'on exporte sont transformés. Alors, vous aviez posé, puisqu'on est dans la partie méthodologique, une question sur est-ce qu'on accède à ces produits-là ? Oui, évidemment. On accède, enfin dans mon métier, on accède aux données des douanes. Donc on a trois bases de données. La base de données Comtrade, qui intègre tous les échanges de tous les pays du monde, avec tous les pays du monde, pour tous les produits. Est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? En gros, on a tout. C'est des millions de lignes. Alors, nous, on traite les 24 premiers chapitres. Et des fois, on va en chercher 2-3 autres, mais peu importe la technique. On traite les 24 premiers chapitres qui ont trait à l'agriculture. Et dans l'agriculture, on a évidemment pratiquement 2000 à 3000 déclinaisons de produits. Donc on peut aller très très fin, y compris sur des aspects pâtisseries, etc. Donc on a tout. Bon, la vérité, c'est que quand vous êtes face à des millions de lignes, vous allez souvent quand même à l'essentiel et vous essayez de rechercher l'essentiel. Donc oui, on accède, et oui, et ça c'est important, on a une connaissance en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 8 mois de décalage de l'intégralité des flux commerciaux en volume et en valeur de tous les pays. Donc on peut étudier des choses extrêmement fines. Pour vous dire actuellement, je suis en train d'essayer d'écrire à Thierry Pouche un article sur l'embargo russe et ses implications. Donc on est capable de savoir avec qui la Russie travaille, comment elle a évolué, où est-ce qu'elle est allée s'approvisionner. Donc il y a un peu de technicité dans ce travail, mais on a cette connaissance. Alors je reviens sur la globalisation. Tout n'est pas une affaire de prix. Il y a une question, il y a la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Je pense que la France, à chaque fois qu'elle est capable de jouer dans la compétitivité hors prix, doit y aller. Mais il ne faut pas non plus être naïf, c'est pour ça que je ne suis pas dans des modèles d'opposition. Il y a une agriculture avec différents types de terrains de création de valeur. On ne peut pas se permettre, je vais vous répondre à mon sentiment, certains pensent le contraire, hein. Je pense qu'on ne peut pas se permettre, dans l'état qu'est notre agriculture, avec la rentabilité, la dépendance au soutien public, on ne peut pas se permettre de faire abstraction de pans entiers de secteurs où on n'est peut-être pas si vertueux que ça, mais finalement on exporte. Donc attention à cette idée de dire « Ah ben non, moi j'ai trouvé une super idée, c'est qu'on fait que ce qui est bien. » Ça n'existe pas dans cette économie agricole. Donc on est condamné à réussir sur des aspects un peu bruts de pomme, j'ai envie de dire, où on est dans la concurrence mondiale avec les autres, et où malheureusement, les prix sont les prix internationaux. Notre capacité à agir sur un prix international est faible. Alors vous avez évoqué très justement le fait que ce qui est surprenant, et ça c'est lié aussi au monde dans lequel on vit, c'est qu'une faible part des produits agricoles sont échangés. Alors je vais vous donner quelques chiffres pour comme ça partager. Aujourd'hui, vous avez 7% de la production mondiale de viande porcine qui est échangée, qui quitte son pays. 7% de l'offre est internationalisée, on va dire, c'est comme ça. Le soja, c'est 30%. La volaille, c'est 12%. Le blé, c'est 15%. Le lait, c'est 8%, etc. Donc on a une dépendance générale à peu près à 10%. Le commerce mondial représente 10% de l'offre domestique globale. Ça veut dire qu'en fait, le prix mondial est souvent dicté par des échanges qui sont extrêmement faibles, en fait, pour atteindre la production. Et qu'en fait, ça accentue la volatilité. Alors, est-ce qu'on a trouvé le moyen de s'en détacher ? La réponse est non. La réponse est non aujourd'hui. Ce d'autant qu'en Europe, nous n'avons pas une vision partagée entre les États. Il y a des pays, vous prenez l'Irlande, les Pays-Bas, ça fait bien longtemps qu'ils acceptent ce monde volatile. La France, on est beaucoup plus, chamboulé par la volatilité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su non plus contractualiser dans nos filières entre un agriculteur industriel et distributeur pour protéger le revenu agricole. En fait, on est au début de la réflexion collective, c'est grave, hein. On est au début de notre réflexion collective sur la manière d'accompagner les acteurs dans un monde volatile. Donc il faut qu'on agisse où ? À deux niveaux. La fiscalité agricole. Les gens, quand ils gagnent de l'argent, il ne faut pas leur demander tout l'argent qu'ils ont gagné, il faut qu'ils puissent la planquer pour que les années de vaches maigres, ils puissent la remobiliser. Donc il y a la fiscalité, il y a eu des travaux du Conseil général de l'alimentation là-dessus. Et le deuxième secteur, c'est la contractualisation dans les filières. Vous prenez le secteur de la volaille. Je suis allé chez LDC il n'y a pas très longtemps. Les producteurs, on leur dit, voilà, vous êtes payé en fonction de votre technique. En gros, on vous donne l'aliment, on vous suggère un bâtiment. Vous voulez être producteur de volaille chez nous ? Pas de problème. Le bâtiment vous suggère celui-ci. Comme ça, ça évite les dérives, des nids d'un agriculteur qui ne sert à rien. Vous suggère celui-ci. On vous donne l'aliment. On a un veto spécialisé. On vous paye en fonction de la technique. Est-ce que les agriculteurs sont mécontents en volaille ? Non. Les nouvelles générations d'agriculteurs sont de moins en moins des maquignons. Les maquignons, c'est quoi ? C'est l'idée que le gars, il veut vendre sur un marché totalement internationalisé. Il voudrait avoir, un peu comme dans le Charolais, une influence sur la partie finale de valorisation de son produit. C'est totalement ce qu'il faut. La question, c'est qu'il faut contractualiser dans les filières, écraser la volatilité, et renvoyer cette volatilité davantage vers l'aval et peut-être un peu vers les consommateurs. D'où tous les débats sur les états généraux de l'alimentation. Dans des périodes de forte volatilité, est-ce qu'on accepte aujourd'hui, est-ce qu'on accepterait de payer le beurre 30% plus cher en France ? C'est ça la question ? Eh bien peut-être que les consommateurs accepteraient cette idée après tout. On n'essaye pas, on est très très, par rapport à beaucoup d'autres pays, très bloqués. Comme il ne faut pas souvent le compter, vous avez raison de me reprendre. J'espère que vous aviez un pull dans le haut doux, parce que... le comté, vous avez raison de le reprendre. En fait, on est complètement d'accord. Je veux dire, le comté, c'est toujours l'exemple numéro un cité par tous les économistes de l'agriculture en France pour dire qu'un monde différent existe. Je le connais bien, ce secteur. Le comté, en fait, ils ont réussi. C'est génial, ils ont réussi parce que ils ont, c'est combien ? 1 milliard de litres de lait en Franche-Comté, dont 500 millions de tonnes, 1 milliard de litres, sont valorisés par le canal du comté. Ils ont bloqué une surface, ils ont bloqué les fruitières, ils ont tout bloqué en fait. Ils ont tout bloqué et ils ont dit on va s'organiser entre nous. Comme ils ont fait un produit qui est magnifique et qui régule l'offre, sans aller trop loin, ben, ces producteurs, ils s'en sortent magnifiquement bien. Et ils s'en sortent d'autant mieux que les autres se plantent. Vous allez dire tout à l'heure, est-ce qu'on doit viser sur la misère des autres ? Oui, les bio. Et les producteurs de lait du comté, aujourd'hui, on les met beaucoup en avant parce que les autres sont en période dure. Mais dès que les autres sont en période où les prix sont meilleurs, le différentiel est différent. Pour autant, ils sont dans leur bulle. Alors, sur la manière d'aller à l'étranger, je pense que là aussi, on a beaucoup de travail à faire. Bon, il y a des organismes qui existent, à SOPEX, il y a beaucoup d'organismes qui essayent de fluidifier la manière dont on fait du commerce à l'international. Mais j'imagine que dans une PME, c'est pas simple. Parce que l'essentiel du commerce international agroalimentaire de la France se fait avec des groupes internationalisés qui ont internalisé tout ce que vous dites et qui ont des personnes sur place. Et donc toute la difficulté des petites entreprises qui veulent exporter sur des marchés extrêmement exigeants, ce que vous avez cité le Japon, c'est probablement le marché le plus exigeant à l'import que nous ayons. Donc une PME qui veut exporter vers le marché le plus... En fait, vous étiez dans le dossier le plus complexe de l'export.
Pour la petite histoire, c'est juste... blague, mais c'est du vécu. Un jour, il y a eu dans un pain qui servait un sandwich un petit morceau, et je vous laisserai faire la présentation, il y a eu un petit morceau de plastique bleu. Et j'ai dû aller avec le... Et donc, il y a un client qui a mangé un sandwich dans une boulangerie de luxe, et il y avait du plastique dans son pain. Donc ça a été un scandale, ils ont fermé la boutique pendant 24 heures, Et le lendemain, je suis allée avec le PDG m'excuser au nom de la France. Au nom de la France. Donc, le chef de notre entreprise était hyper honoré qu'une Française soit venue s'excuser. Et donc, voilà. Et donc, en fait, après, on a fait une enquête qualité et on a vu que dans l'usine, en fait, le problème est qu'ils avaient des gants blancs et que du coup, le plastique était parti dans la cuve de pâte et que du coup, ça ne s'était pas vu. Donc, ils ont passé à des gants bleus pour pouvoir arrêter la cuve s'il y avait. Donc, ça a permis d'améliorer le processus industriel. Mais effectivement, c'était un truc. J'ai passé une demi-heure à faire comme ça. Pardon.
C'est tout à fait juste ce que vous dites sur les goûts, les couleurs, etc. Le Japon, c'est très particulier. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, j'ai téléchargé, parce que je dois y aller en janvier, au ministère de l'Agriculture au Japon. Et on m'a demandé un rapport qui a été fait par l'ambassade de France au Japon, qui fait 35 pages, sur la relation agroalimentaire de l'Europe et de la France en particulier vis-à-vis du Japon. Il y a plein de trucs très intéressants. J'avance. Donc, autre point, le marché des terres agricoles. Alors, le marché des terres agricoles, il est plus vrai dans une dimension internationale que dans une dimension européenne, même s'il est absolument vrai de dire que les Belges, les Néerlandais, sont prêts à mettre des volumes financiers beaucoup plus importants pour reprendre potentiellement des terres agricoles. Je rappelle que le prix d'un hectare de terre aux Pays-Bas peut atteindre 40 000 euros de l'hectare et qu'en France, ça varie entre 3 000 et 12 000. Donc, l'appétit que peut avoir des Belges et des Hollandais pour nos terres agricoles sont importants. Il y a beaucoup de médiatisation sur l'accaparement de terres. Les Chinois qui ont repris 2000 hectares de terres en France, tout ça c'est une réalité avec des montages, je dirais, de sociétés assez complexes. Il faut faire attention. Ce que je voudrais simplement partager, c'est que le prix des terres en France, il est très faible, 6 000 euros en moyenne par hectare, comparé à tout ce qui s'observe à l'échelle européenne et tout ce qui s'observe de plus en plus à l'échelle internationale. Ça veut dire qu'en fait, si nos agriculteurs français sont plus en capacité de capter leur foncier agricole, on aura des acheteurs externes et ça sera... Alors ça a commencé dans les domaines viticoles, évidemment c'est une autre histoire, mais ça pourrait aussi aller dans le domaine agricole, donc il faut vraiment bien bétonner nos règles et les conditions d'accès au foncier en France, et surtout d'avoir une agriculture qui permette le transfert de foncier. J'ai une remarque complémentaire, pratiquement 80% du foncier agricole cultivé en France l'est par des agriculteurs qui ne sont pas propriétaires de leurs terres. En fait, les propriétaires des terres agricoles en France sont des personnes âgées, sont des gens qui ont plus de 65 ans, 70 ans, et qui détiennent la terre, et comme les nouvelles générations n'ont pas gagné assez d'argent, elles n'ont pas été en capacité de reprendre financièrement les terres de leurs parents. On va avoir des très gros soucis avec ça, parce qu'en fait, ces gens-là qui arrivent à 50, 60 ans, si leurs parents décèdent, ils ne veulent pas racheter les terres, parce qu'il leur reste trop peu de temps avant la retraite, si vous voulez, pour justifier d'un investissement. Ça veut dire qu'on a fait un saut générationnel, et qu'on se retrouve sur les bras avec énormément de foncier capitalisé dans les familles, sans qu'on ait trouvé d'acquéreurs au sein même des familles, ce qui, sur le plan sociologique, renvoie à beaucoup, beaucoup de questions. Autre point, autre remarque de tout à l'heure. Non, je ne crois pas qu'aux AOP pour tirer le positionnement français. Les AOP, c'est bien, on a un marché défini, mais je crois aussi à la technologie. Il y a des produits non AOP, des produits technologiques, la poudre de lait infantile s'en est un, hein. Il y a des produits technologiques sur lesquels vous n'avez pas besoin d'avoir une référence au territoire pour être gagnant. La France en tant que telle, l'affichage français en tant que tel, plus la technologie peut suffire. L'AOP, c'est pour aller plus profondément dans un terroir. C'est très utile, hein, champagne, cognac, tout ça, très utile. Mais c'est pas, ça ne doit pas être généralisé, je ne partage pas cette idée-là. On a des biens technologiques à créer, des biens made in France en fait, qui ne sont pas ancrés dans le territoire et qui peuvent être commercialisés. Alors sur les aides publiques et ses effets pervers, il y en a énormément d'effets pervers. J'en citerai deux, trois. Le premier effet pervers des aides publiques, c'est que ça peut être éloigner certains agriculteurs de la technique. Vous avez des agriculteurs, il y a tellement d'aides par rapport à leurs revenus que finalement ils ont quitté un peu la vision dans laquelle la rentabilité de leur exploitation dépend de leurs actions. Quand vous êtes dans une exploitation naisseur, c'est des petits broutards, que vous avez 20 000 euros de revenus et que vous avez 45 000 euros d'aide dans l'année, vous avez des fois plus intérêt à vous occuper des papiers de la PAC que de vous occuper de la technique. Donc ça, c'est par exemple un effet pervers. Le deuxième effet pervers, c'est que des aides publiques, vous pouvez en mettre tant qu'on veut, puisque de toute façon, c'est le consommateur qui profite. C'est un choix de société. En fait, c'est le contribuable qui finance la politique avec votre commune. Donc l'aide publique, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une politique sociale, quelque part. On fait supporter le coût de l'alimentation. Enfin, on permet à toute une partie, à 65 millions de Français, d'accéder à une alimentation moins chère que ce qu'elle serait sans les aides publiques, en sachant que les aides publiques sont financées par la moitié des Français qui payent l'impôt. Et tous les débats qu'il y a derrière. Donc c'est une politique sociale. C'est un effet pervers, parce que quelque part, ça éloigne aussi le prix des biens alimentaires de la réalité des coûts de production. Donc les effets pervers, il y en a à tous les étages. La question des phoques, secrètement, je me suis posé, et si on arrêtait pour jouer, mais ça c'est l'économiste dans son labo, les bras, et si on arrêtait les aides publiques, du jour au lendemain. Je vous rappelle, on avait travaillé pour M. Barnier, quand on était ministre, il nous avait demandé le coût de la non-PAC. Parce qu'il allait, il allait rencontrer son homologue britannique, et son homologue britannique, il voyait bien à l'arrêt de la PAC, si vous voulez. Donc c'était vachement, c'était un raisonnement par là-dessus, c'était très intéressant. Et en fait, ben, on peut pas tester grandeur nature. Moi, je pense que s'il n'y avait pas 50 milliards d'euros versés à l'agriculture, les prix augmenteraient. Parce qu'on a envie, on est obligé de bouffer. Et donc, à un moment donné, les prix augmenteraient, puis qu'on accepterait, et peut-être que l'immobilier, surtout en France, prendrait un petit coup, parce qu'on aurait moins d'argent à mettre partout. Donc, c'est une question d'équilibre, tout ça. En fait, c'est des choix de politique publique. Que les agriculteurs, là, n'ont jamais souhaité. C'est très rare, les agriculteurs que vous rencontrez, qui vous disent « je suis content d'avoir des aides ». Tous les agriculteurs, leur première phrase, quand ils rencontrent un économiste, « je veux vivre de la vente de mes produits ». Donc, c'est un système un peu bizarre. Un système dans lequel je ne vois pas comment on va sortir à court terme, je suis honnête. Nous sommes en 2017, on est en train de parler de la réforme de la PAC pour 2022, 2023, 2025, on ne sait pas, avec l'idée que les soutiens publics vont continuer. La meilleure preuve, c'est qu'on a déjà imaginé toutes les techniques qu'on pourrait mobiliser pour dépenser l'argent public futur, en disant qu'on va créer des instruments de gestion des risques, plus ou moins publics, plus ou moins privés. Dernier point sur les agriculteurs bio, c'est fait vite sur chacun. Le dernier point sur les agricultures bio, c'est la Lozère, c'est ça que j'ai bien compris.
Oui.
Un département très peuplé d'agriculteurs. Donc, le département de la Lozère, sur le bio. En gros, le bio, d'abord, sur les objectifs, le lait bio, il est maîtrisé. Hein. Il est maîtrisé par les opérateurs de l'aval. Vous avez dit, les agriculteurs font des conversions. C'est vrai, ils font des conversions, mais il faut qu'ils aient des contrats quand même. Donc les volumes de lait engagés en bio passe par le canal des contrats des entreprises. Hier, je vous ai dit, j'étais chez Agrial, c'est le premier opérateur du lait bio en France, et il disait, voilà, alors en ce moment, on fait gaffe, parce que bon, c'est pas si évident que ça. Ça veut dire qu'en fait, la capacité qu'on a à offrir des volumes dans le lait bio dépendra de la réalité du développement des marchés. Il ne faut pas se rire. C'est pas les agriculteurs qui ont la main sur le dossier. Et les industriels, ils sont très précautionneux, parce que faire du lait bio, acheter du lait bio pour le vendre en conventionnel, n'importe quel contrôleur de gestion dit que ça ne vaut pas le coup. Donc faire du lait bio, ça vaut le coup si vous avez un marché du bio. Si vous achetez du lait à un agriculteur bio au prix du bio pour le vendre en conventionnel, ça ne vaut pas le coup. Ça veut donc dire que le développement du bio ne se fera qu'au regard du développement de la consommation du bio sur le territoire national.
Allez, merci, café.